Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Et vous écoutez France Culture. La destinée humaine est de brûler sur place. Rachild, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. De même qu'il y a l'œil du cyclone et le cœur de la nuit, il y a le mauvais genre des mauvais genres. Le point aveugle est la pièce du haut, celle dont l'accès est réservé, dont la clé lourde pend au cou du maître ou de la maîtresse. Y a dressé son chevalet le peintre et dessinateur américain Stu Mead, dont la manière est celle d'un imagier de l'enfance et l'inspiration celle d'un luciférien joueur et tendrement lubrique. L'homme réside à Berlin où l'a retrouvé Esther Teilhard pour un entretien carrière mené en compagnie de Christophe Beer, des nymphettes en enfer, le jour de Pâques, et pas d'erreur, c'est bien un mauvais genre. Chronique en second temps d'émission consacrée notamment à Rachild. Bonjour à toutes et à tous, joyeuse Pâques bien évidemment, mais joyeuse Pâques mauvais genre, puisque notre émission d'aujourd'hui sera consacrée à un des peintres, un des illustrateurs les plus mauvais genres du monde, au point même que la justice tourne autour de lui. Il s'agit de l'américain Stu Mead. Stu Mead est un américain pur jus, mais installé pour l'heure à Berlin, et c'est là que vous l'avez débusqué, on peut dire le mot, ou déniché. Esther Teilhard, bonjour.
Bonjour François.
Ce personnage singulier dont tout le monde disait qu'il était injoignable, qu'on ne savait pas très bien comment arriver à le contacter, que bon, bah, vous avez pris votre téléphone et vous l'avez appelé. Alors, vous avez une histoire avec Stu Mead, on peut le dire, une histoire à la fois de fascination et d'intérêt esthétique, plastique. Vous pouvez nous raconter déjà, dans un premier temps, comment vous l'avez découvert et quel a été ce choc ?
Bien sûr, François, on va dire que c'est peut-être le plus bizarre des bizarres. Stu Mead, je le découvre à la galerie Art Factory où je faisais un stage et je tombe sur une reproduction d'un tableau extrêmement étrange d'une femme habillée qui pousse une jeune femme qui a l'air d'être vraiment sa fille vers une chambre rouge, une espèce de bordel ou d'enfer. La petite fille est entièrement nue et elle a un air étrange, on dirait qu'elle sourit ou qu'elle est triste, on ne sait pas. Et je tombe sur cette reproduction et je suis complètement bouleversée. Mais vraiment complètement bouleversée. Je demande au galeriste, mais qui est cet homme qui a peint ça? Et on me dit Stu Mead. Stu Mead. Donc là, je me renseigne. Stu Mead est un artiste qui est né...
Alors là, effectivement, la curiosité va au-delà du choc et de la pure contemplation, puisque vous intéressez tout de suite à l'histoire du bonhomme. Et d'où vient-il et qui est-il?
Stu Mead, il est né dans l'Iowa... En 1955, on ne sait pas grand-chose de lui. Il faut dire que l'homme est assez discret, comme tous les vrais bizarres. Il a fait ses études dans l'école d'art de Minneapolis en 1970 et il rencontre un professeur là-bas qui s'appelle Frank Gard, qui tombe sur un carnet de Stu Mead. Et Stu Mead a son petit carnet toujours de dessin à côté de lui.
Carnet de croquis.
Carnet de croquis et il le cache un petit peu honteusement, il ne le montre à personne. Donc Frank Gard regarde et il voit des dessins, ce qu'il appelle des petits « dirty drawings », des dessins extrêmement sales, qu'il trouve assez magistral. Et il lui dit « Écoute mon coco, ces dessins-là, ils sont absolument incroyables. Donc tu vas y aller à fond et tu vas ouvrir ton carnet, tu vas nous montrer ces dessins. » Et il décide de lui proposer de participer à son fanzine qui s'appelle « Man Bag », qui est un fanzine très alternatif. Et il lui dit « Mon fanzine est extrême, tu peux aller à fond dans tous les tabous sexuels, scatologie, zoophilie, sexualité des mineurs, vas-y, tu y vas, tu fonces. » Et Stu Mead se donne à fond dans l'exercice. C'est comme ça que ça commence. Et ensuite, Stu Mead va un petit peu aller à Paris. Dans les années 90, il va rencontrer Bruno Richard, il va rencontrer des artistes de la scène parisienne alternative comme Placide, comme Museau. Et là, ça va commencer, parce qu'il va rencontrer ensuite Paquito Bolino, l'éditeur des sulfureuses éditions du Dernier Cri, et Stoumid va commencer à être regardé. Et ce qu'il dit, c'est que, en effet, une fois qu'il a commencé à aller dans l'extrême, dans le porno, dans le hardcore, les gens réagissaient à ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'ils réagissaient soit très bien, soit très mal, mais ils n'étaient pas indifférents. Et sa carrière a débuté justement dans cet extrême.
Alors, est-ce à dire qu'il y avait que le carnet interdit de Stoumid qui intéressait? Est-ce qu'il y avait une œuvre à côté? Est-ce qu'il a vraiment changé de cap pour se consacrer là? Quelle est un petit peu la...
Il y avait une œuvre à côté, c'est-à-dire que Stoumid fait des dessins très étranges. Il peint des nymphettes à la Lewis Carroll en pleine perversion avec des petits hommes diminués physiquement qui regardent en arrière-plan. Parce que ce qu'il faut dire, ce qui est très intéressant, c'est que Stoumid est un artiste qui a une maladie, une arthrogrippose. Il peint à une main. C'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire que l'homme peint à une main des scènes dignes des messes noires de Huysmans. Et cette maladie le diminue complètement. Et dans ses tableaux, il y a toujours un homme en arrière-plan, une espèce de voyeur, un très petit homme, très laid, qui regarde des jeunes femmes sublimes. Donc c'est ce qui dérange avec l'art de Stoumid, justement. Mais il ne fait pas que ça, il fait aussi des portraits très classiques. Très très classiques, et c'est ça qui est assez étonnant avec l'art de Stoumid.
Mais des portraits classiques, des portraits de gens qu'il connaît, ou il y a des portraits de célébrités, des portraits de quoi? Parce que écoutez, tout ce qu'on peut connaître de lui, ce sont ces scènes interdites.
C'est ça qui est étrange avec Stoumid, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Et pour vous raconter un petit peu, François, moi, je décide d'appeler Stoumid, je trouve son numéro un petit peu en le volant.
Tiens donc,
je le vole et j'appelle l'homme. Et alors là, c'était assez terrifiant parce que je tombe face à un homme très timide, mais très clair dans ses propos, qui parle très bien. Et je lui dis, écoutez, monsieur, qui êtes-vous? Comment on peut peindre des choses pareilles? Racontez-moi un petit peu.
Et lui ne vous a pas dit qui êtes-vous?
Lui était très étonné parce qu'il m'a dit que plus personne n'osait le contacter. Il m'a dit, vraiment, c'est très étrange. Ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu de coup de fil. Je suis plus très adaptée au temps moderne, on va dire. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'au téléphone, comme tous les vrais punks, il parle très bien, il y a aucun désordre apparent, il est très respectable. J'essaye de le pousser dans ses retranchements, de lui dire, mais pourquoi peignez-vous des femmes comme ça? Êtes-vous un pervers? Êtes-vous un fric? Êtes-vous un pédophile? Et il dit, pas du tout, moi je peins dans mon atelier à Kreuzberg, parce qu'il faut dire que maintenant il habite à Berlin, comme vous l'avez dit au début, dans une réserve d'une galerie d'art. Il dit, ah non, pas du tout. Et il répond très sérieusement. Je lui propose l'interview, il accepte, mais il se demande vraiment qu'est-ce qu'on lui veut, quoi, parce que plus personne ne lui parle.
Ce qui veut dire qu'en Allemagne, personne n'est venu l'interviewer, qu'aux États-Unis, on le connaît, mais on ne se soucie pas de lui poser des questions. Il faut vraiment mauvais gens sur France Culture pour Esther Teilhard pour aller chercher.
Disons que c'est toute la particularité de Stoumid, et moi, c'est ce qui m'a tout de suite énormément plu avec lui, c'est qu'il peint comme si personne n'allait le regarder. Et ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui peint dans sa chambre rouge et qui ne pense pas qu'un jour on pourrait jeter un œil sur son art, qui est magnifique, il faut le dire, c'est un grand peintre. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que non seulement c'est un artiste qui est très sulfureux, donc forcément, il attire les frics, c'est un art pornographique, c'est des images qui sont masturbatoires, ça c'est clair. Mais à côté, tous les adeptes de l'expressionnisme allemand, tous les adeptes de Kirchner, de Balthus, mais même des romantiques noirs, de Lautréamont, adoreraient Stoumid, parce que c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique, et ça emprunte à toute une tradition de peinture très classique, en fait.
C'est alors,
ça
justement, comment vous définiriez sa manière? J'ai intitulé l'émission Martine en enfer, parce que je trouve qu'il y a une sorte de fraîcheur et d'innocence, mais qui est retournée dans le sens de l'enfer et de la perversité. Le style Stoumid, comment vous, Esther Teilhard, le définiriez-vous?
Le style Stoumid, c'est un style bien à lui, c'est-à-dire que c'est un esthétisme des années 50 qui emprunte au magazine porno des années 50, mais aussi à la carte postale, au théâtre burlesque. C'est des couleurs très chaudes, c'est des mouvements très vifs, c'est plein de mouvements, c'est des scènes folles. Par exemple, je pense à ce tableau où il y a deux infirmières qui se caressent en buvant du gin à côté d'un homme alité. C'est que des scènes très particulières et... Mais en fait, c'est impossible de le définir. C'est-à-dire que Stoumid, c'est Stoumid. C'est le mauvais genre en personne.
Très bien, Stu Mead, c'est le mauvais genre en personne. Il était donc bien normal qu'un jour, il passe à portée de notre micro. Donc, bravo et merci de l'avoir contacté, de l'avoir convaincu de nous parler. On va donc écouter Stu Mead, qui est dans son ermitage de Berlin, à Kreuzberg, et qui nous accorde cet entretien à vous, évidemment, à Christophe Beer, qui le connaît et le suit et l'apprécie depuis longtemps, et puis moi qui mène le cœur des enfants de cœur en ce dimanche de Pâques. On écoute donc Stu Mead au micro de Mauvais Genre. Bonjour Stu Mead.
Hello.
Merci d'accorder cet entretien à Mauvais Genre sur France Culture, où vous avez beaucoup d'admirateurs et de gens passionnés par votre travail et votre parcours artistique et puis solidaire des difficultés que vous pouvez rencontrer dans son expression. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, quels ont été pour vous, les éléments formateurs, parce qu'on connaît votre œuvre présente sur les décennies qui précèdent, mais quels ont été pour vous les chocs, à la fois sur le plan intime, sur le plan personnel, et puis aussi vos découvertes culturelles qui ont un peu orienté votre activité d'artiste, les livres, les films, les comics, les beaux-arts?
Yeah. Could start with comics, I guess, as far as,
Alors, je pense qu'on peut commencer avec les bandes dessinées.
The nature of inspiration and what starts
La nature de l'inspiration.
I know that when I was in my early teens,
au début de mon adolescence, hein, et c'est la première fois que je vais voir en fait des bandes dessinées underground. Donc il y a Robert Crumb, évidemment, il y a Hightone, et c'est vraiment un choc en fait, hein, mais un choc très beau en fait. Hein, c'était quelque chose que j'avais vraiment jamais vu, même si j'étais plutôt familier avec la bande dessinée, hein, puisque j'aimais beaucoup. Beaucoup. Les bandes dessinées, particulièrement les bandes dessinées Marvel, mais j'avais aucune idée en fait de cette autre bande dessinée et j'étais absolument bluffée par l'incroyable technique du dessin de Robert Crumb. Hein. C'était un peu comme des vieux dessins de bandes dessinées et en même temps c'était quelque chose qui visait à être totalement différent. C'était vraiment une expression qui était extrêmement forte. À l'époque, on est en 1971, donc on est encore dans la période de la révolution sexuelle et culturelle. Moi, j'ai 16 ans à l'époque, donc je suis encore assez protégée, mais donc c'est comme une révélation, en fait.
On continue, Stu Mead, avec une question importante. C'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous venez et quelle était la première fois où vous vous êtes retrouvé à dessiner quelque chose de bizarre, une scène étrange, une scène pornographique? Vous rappelez-vous de ce premier dessin?
I always have been drawing since I was, as long as I can remember, you know, since I was very little. And so I would, throughout my childhood, I drew.
Oui, en fait, ça. J'ai toujours dessiné, hein, du plus loin que je me souvienne, et j'ai dessiné mon enfance, en fait. J'avais des petits carnets. Et finalement, les dessins plus bizarres auxquels vous vous référez, ça va venir à la puberté, en fait. Hein, comme qu'à un moment donné, j'ai envie de faire des dessins un peu différents, des dessins de nus, avec derrière une vague idée du sexe, sans que je sache très bien de quoi il s'agit sans vraiment comprendre. Donc, c'était sur les mêmes carnets, en fait. Je faisais mes petits dessins. Et puis, il y avait toujours une ou deux pages que je montrais jamais à personne. Ces dessins bizarroïdes que je faisais quand j'en avais envie. Et puis, ça a duré, en fait, pendant des années, tout ça. C'était des dessins qui étaient presque juste croqués, sans trop de détails, des dessins que je qualifierais presque de mauvais. Et quand j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à une carrière d'artiste, bien sûr, j'envisageais de faire des choses qui soient sérieuses. Et puis, c'est des copains, quand j'étais étudiant à l'école d'art, des gens que je respectais beaucoup, qui m'ont dit à un moment donné, mais tu sais là, ces dessins un peu coquins, en fait, c'est ces dessins-là dans ce que tu fais qui est le plus fort. Et donc c'est vraiment ce moment-là où j'ai commencé à envisager de faire rentrer ces dessins-là dans ma pratique artistique.
Christophe Beer, une question.
Là, justement, nous sommes dans les années 90, début des années 90, vous êtes au Minneapolis College of Art and Design, et vous pouvez-vous nous parler de l'importance qu'a eu donc dans cette révélation votre un professeur que vous avez qualifié de mentor, Frank Gard, qui à l'époque aussi vous invite à dessiner dans les colonnes de son fanzine Art Police. Et Frank Gard, qui définissait aussi les artistes comme des criminels de l'art. Donc je pense qu'il a eu une importance certainement considérable dans cette éclosion d'un Stuart Mead dessinateur d'érotisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Frank Gard, qui est peu connu en France?
Yeah. Well, he is a painter who was born in, I won't give too much detail, but he's from Chicago, and he was a teacher at my art school.
Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, en fait, mais Frank Gard, c'est quelqu'un qui vient de Chicago, et effectivement, il a été un de mes enseignants dans cette école d'art et de design à Minneapolis. C'est quelqu'un qui avait étudié avec Peter Saul, qui est quelqu'un qui avait amené, en fait, la sensibilité du pop art un peu plus vers l'abstraction. Et ce qui intéressait Frank Gard, c'était vraiment d'amener ce langage des bandes dessinées ou des fanzines dans sa propre peinture. Et il utilisait tous les aspects, en fait, de cette technique-là. C'est quelqu'un, donc, qui a développé dans les années 70, effectivement, cette fanzine qui s'appelait Police, qui a duré pendant une vingtaine d'années, et c'était très très amusant, en fait, de participer à cette fanzine-là, et c'était vraiment l'idée de mélanger tout ce qu'était la bande dessinée, le fanzine, avec la possibilité de faire une publication, parce que c'est vrai que moi ça m'intéressait, ce caractère artistique ou ces éléments artistiques, mais je savais pas trop comment faire avec ça, je savais pas trop où diriger mon expression. Donc cette fanzine, il y avait une atmosphère absolument formidable, et c'était vraiment le lieu où je pouvais m'exprimer pleinement en amenant ce qu'était la bande dessinée dans mon travail. Et puis c'est vrai que c'est un lieu où on avait une liberté absolument incroyable, et plus c'était osé, mieux c'était. C'était vraiment le type d'énergie qu'il y avait là. Il y avait aussi deux, trois artistes français français comme Mougeot, Placide ou Bruno Richard, qui étaient des contributeurs occasionnels de la revue. Et la première fois que je suis venue à Paris en étant adulte, hein, je suis allée voir Jacques Noël à la librairie Le Regard Moderne et il avait en vente, pour les gens qui le souhaitaient, un certain nombre de numéros d'Art Police. Hein. Donc, en fait, Frank Gard, c'est quelqu'un qui venait aussi de la tradition du mail art, de l'art postal, on va dire, et donc pour lui, ce fanzine, c'était un moyen de mélanger ces deux intérêts, le mail art et le comic.
I forgot to say that Frank Gard and me, we made a together a zine.
Ce qui est effectivement, hein, Frank Gard, c'est quelqu'un donc avec qui je suis restée de toute façon en lien une fois que Art Police s'est arrêté, et c'est toujours quelqu'un avec qui je communique très très régulièrement. Après Art Police, on a fait un autre fanzine qui s'appelait Man Bang et qui était également en vente au Regard Moderne dans cette librairie. Et c'est là que Paquito Bolino a découvert mon travail et qu'il a donc commencé à méditer dans la maison d'édition Le Dernier Cri. Et il a édité donc deux livres sur ces deux fanzines.
Vous avez fait vos études aux États-Unis, vous venez des États-Unis, et ensuite maintenant vous êtes à Berlin, vous avez un atelier à Kreuzberg, dans un des lieux les plus alternatifs qui puissent exister sur la scène contemporaine artistique. Est-ce que les États-Unis vous ont rejeté, ou c'est vous qui avez rejeté les États-Unis ? Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que maintenant vous êtes un artiste européen et vous avez complètement laissé tomber votre côté américain, on va dire.
I don't know. To be honest, no, it was not so dramatic. I mean, I consider myself an American artist. I mean, I don't know, but also I've been here for 24 years now, so I'm somehow also a Kreuzberger, a Berliner, but.
Oui, je sais pas en fait. Hein, les choses ont pas été aussi dramatiques que ça. Je me considère un artiste américain, mais ça fait 24 ans que je suis à Kreuzberg, donc je dirais que je suis un Kreuzberger, un Berliner. Mais les raisons de ce déménagement, en fait, hein, elles sont assez simples. C'est que à Minneapolis, les loyers étaient devenus extrêmement chers et donc la vie devenait difficile. Et puis j'avais déjà en fait des liens avec une galerie ici à Kreuzberg qui s'appelle la galerie Endart. Et lorsque je suis venue en l'an 2000 en fait pour un séjour qui devait durer un mois, finalement j'ai pas voulu rentrer. Hein. C'est vrai que c'était à l'époque très très peu cher de vivre à Kreuzberg. Les choses ont changé maintenant, hein. Et il y avait aussi une autre raison qui était que à Minneapolis, en fait, il y avait plutôt une culture assez conservatrice, hein, et que je n'avais pas vraiment de lien avec la communauté des artistes, même si j'avais quelques successeurs, hein, c'était pas des relations extrêmement proches, alors que j'ai vraiment eu le sentiment que les gens étaient beaucoup plus ouverts à Kreuzberg, beaucoup plus ouverts aussi à Paris, et que donc je pouvais établir des liens avec d'autres artistes beaucoup plus facilement.
Vous peignez des scènes très sulfureuses, assez grandioses, et on veut absolument savoir d'où viennent ces scènes. Est-ce que vous vous réveillez dans la nuit avec des images très précises? Est-ce que vous écrivez avant? Est-ce que vous vivez ces scènes? Est-ce que il y a beaucoup de scènes d'errance dans la rue, dans des magasins? Est-ce que vous êtes un grand errant qui passez votre temps à regarder un petit peu tout ce qui se passe et à retranscrire tout ça? D'où vous vient votre inspiration?
My ideas come from my sketchbooks mostly, and like I said before, I have used a sketchbook since I was very little, you know, 3 or 4, 4 or 5 years old, and so.
Mes idées, hein, comme je le disais, je fais beaucoup de dessins, en fait. Hein, j'ai un carnet de croquis depuis toujours, depuis mes 4-5 ans. Et quelquefois, là, je trouve des idées. Hein, ça se passe tout seul, en fait. Hein, je me mets à crayonner et puis il y a une esquisse sans trop y penser. Alors, je me dis que ce dessin qui vient de manière naturelle, il a pour cette raison-là quelques qualités, un petit peu comme si c'était un rêve éveillé. Parce que malheureusement, vous m'avez demandé sur mes rêves, mais je me souviens jamais de mes rêves. Et puis, dans mes rêves, en fait, hein, c'est souvent l'idée d'être en retard pour un rendez-vous, en retard à l'aéroport, enfin des choses comme ça, très 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 idiote. Bien sûr, il y a des idées qui me viennent d'autres arts, hein, du cinéma notamment, mais le plus souvent, je me mets à feuilleter mon carnet, puis je trouve une image comme ça, une petite esquisse que je trouve intéressante, et je vais me mettre à la développer en essayant de conserver en fait la spontanéité du dessin d'origine et ses idées. C'est comme ça que ça va prendre forme.
Stumid, vous représentez très souvent des très jeunes filles, des nymphettes nues, qui sont livrées à des personnages diaboliques, à Satan lui-même, à des figures religieuses, que ce soit des prêtres ou des bonnes sœurs, dans de véritables rituels sataniques, érotiques, pornographiques. On peut même penser à Huysmans à certains moments. La question que je vous pose, justement, c'est celle-là. Comme vous êtes un grand lecteur de Bruno Bettelheim et de sa psychanalyse des contes de fées, est-ce que toutes ces visions infernales de nymphettes livrées au diable sont justement peut-être l'envers, la face sombre des contes de fées?
Yes, absolutely, yeah. That book had a big influence on me as far as just showing how metaphors can be so very deep in our psychology and how a simple story can be very profound.
Oui, tout à fait, en fait. Hein. C'est un livre qui a une grande influence sur moi. Et je crois qu'effectivement, à travers cette réflexion sur les métaphores, on voit bien à quel point les plus simples des métaphores ont vraiment une influence extrêmement forte sur notre psychologie et comment des histoires très simples, en fait, peuvent être finalement extrêmement profondes. Hein. Je crois que cette imagerie satanique et religieuse, en fait, c'est une manière de créer un décor fantastique, un environnement comme ça, qui peut avoir un contenu psychologique. Hein. Je ne suis pas née dans une famille particulièrement religieuse, même si mon père était très très croyant, mais je me souviens que mon frère dessinait des têtes de diable, en fait. Hein. Il était ado et moi, j'étais enfant. Il avait même fait une tête de diable sur son sweatshirt. Voilà, on est dans les années 60. Hein. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment impressionné, toutes ces têtes. Et elles ressortaient dans mes rêves, en fait, dans mes cauchemars, hein, plutôt. Et c'est quelque chose qui m'est resté, en fait. Et puis, une fois adulte, j'ai perdu la foi, en fait, mais je ne me suis jamais débarrassée de l'imagerie religieuse parce qu'elle est pour moi porteuse d'une véritable force d'évocation.
La force d'évocation de la religion catholique, vous l'utilisez aussi, me semble-t-il, dans toute votre peinture, avec une dimension satirique. Bon, on avait évoqué au début d'émission l'influence de Crumb, enfin, et du comics underground. Et donc, les petites filles sont aussi des moyens, parfois, pour démasquer toute une hypocrisie ou un puritanisme dont vous vous moquez allègrement. Je me souviens notamment d'une peinture insensée d'une religieuse qui coupe les mains d'une petite fille. Les personnages masculins sont souvent extrêmement grotesques. Donc là, on quitte le domaine du cauchemar pour quelque chose de beaucoup plus... un rire franc, un rire peut-être libérateur.
Yeah. Yeah, yeah, yeah. It's true. No, I want people to laugh. I mean, I like the idea of what I do to evoke humor. Of course, the hypocrisy of religious people is always a
Mais c'est vrai, j'aime l'idée, en fait, que les gens rient, hein, et que mes images soient porteuses d'un certain humour et qu'elles évoquent l'humour. Bien sûr, l'hypocrisie de la religion et des personnes religieuses est bien sûr une grande cible dans la satire. Hein. J'ai lu les 120 jours de Sodome et Gomorrhe quand j'avais une trentaine d'années. Je crois que j'ai dû lire le livre en entier. Et ça aussi, ça a été un autre grand choc culturel pour moi. Hein. Il y a tellement de ce livre qui effectivement est une satire et qui en même temps s'inscrit dans une véritable tradition qui existe depuis longtemps, de se moquer de l'Église. Hein. Et il y a aussi, je crois, un véritable environnement qui est tellement riche visuellement dans le catholicisme, hein, que moi-même à 20 ans, au début de ma vingtaine, hein, j'ai essayé d'être catholique pendant une année, mais ça n'a pas marché.
One thing I wanted to say was that I found inspiration in themes about the occult, but what I like is not the occult itself, because it's, in the end I found it was quite boring, but
C'est vrai que, évidemment, hein, c'était une inspiration, cette religion catholique. Mais ce qui était très intéressant aussi, c'était de voir la manière, et aussi qui était une inspiration, c'était de voir la manière dont les personnes religieuses voyaient l'occulte. Et du coup, moi, je me suis, pendant très très longtemps, en fait, hein, j'écoutais des émissions de radio radios religieuses. Il y en avait pas mal, en fait, dans différents États des États-Unis. Hein. Et c'était très amusant de voir à quel point ils décrivaient le séculaire comme quelque chose de diabolique et comment ils rentraient vraiment dans les détails, en fait, de ce que ces gens diaboliques vénéraient. Hein. Et ils prenaient des exemples, par exemple, comme Madame Bovary, tout un tas de symboles, en fait, hein, qui, pour eux, étaient la marque du diabolique, vraiment. Mais ce qui était très amusant, c'était que la manière dont ils parlaient de ça, c'était un langage qui était totalement empreint d'amour et de désir. Hein. Et c'est quelque chose qui a, bien sûr, inspiré quelques-unes de mes peintures.
Vous représentez des femmes, des fillettes, d'ailleurs ça vous pose parfois problème, qui sont extrêmement dominatrices et en position de pouvoir absolu face à des hommes complètement à terre et affaiblis. Est-ce que vous considérez, Stoumid, que votre art est moderne ou complètement menacé par les temps modernes? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des œuvres immontrables que vous gardez dans une chambre rouge, une chambre secrète?
Yeah, I mean, I try to create, you know, when I work, try to have a environment where I feel I can be open and free. And but to be honest, the culture has changed so much that it has an effect on me. I would like to think that I'm. I mean, there's a few things you mentioned.
Oui, évidemment, hein, quand je travaille, j'essaye de le faire dans un environnement qui est ouvert et dans lequel je me sens libre. Hein. Évidemment, la culture a beaucoup changé et ça a eu un effet sur moi. Ces images de femmes dominantes face à des hommes faibles, hein, c'est quelque chose, je crois, qui n'est en fait que le reflet de moi-même. Hein. Je suis quelqu'un de physiquement plutôt petit, donc c'est quelque chose qui, je crois, a un aspect tout à fait autobiographique et pas du tout un côté quelconque de commentaire sur l'époque. J'aimerais pouvoir dire que mon travail est moderne, hein, ou peut-être même contemporain, mais j'ai quand même, bien sûr, le sentiment qu'il n'y a rien de vraiment nouveau dans mon travail, si ce n'est, en fait, cette ouverture complète et cette absence de limites. Hein, mais je dirais que les limites qu'il y a aujourd'hui dans la culture m'affectent de plus en plus. À peu près 70 ans, je ne suis évidemment plus animée de l'esprit rebelle qui était le mien quand j'étais plus jeune. J'espère qu'il pourrait revenir. Mais en tout cas, j'espère que mon travail peut tout simplement être vu comme faisant partie du dialogue qui existe dans la culture d'aujourd'hui.
Stoumid, j'aimerais qu'on parle maintenant de votre art, de votre technique, de vos stratégies de peintre et d'artiste. Effectivement, quand on voit vos œuvres, on a un peu l'impression d'avoir affaire à Norman Rockwell qui aurait lu Le Marquis de Sade. C'est-à-dire à la fois un univers familier, familial, avec des couleurs chaudes, rassurantes, des personnages qui ont une apparence de petite fille digne, de mère de famille responsable. Mais ce qui se passe n'est pas ce qu'on attend. Les choses dévient et on traite l'animal de compagnie de manière bizarre. La mère et la fille se livrent à des jeux étranges. Les petites amies, elles aussi, jouent au docteur, comme on dit, jouent à des jeux étranges. Il y a quand même chez vous un discours de l'innocence dans la couleur, dans la forme, mais qui est dévié, qui est d'une certaine façon tourné à l'envers, renversé.
Yeah, this is a difficult one. I have no real strategy when I do things. It was just, but I must say that, you know, one of my early, like I said, heroes was Robert Crumb.
Alors, j'ai pas de stratégie en fait hein, quand je fais quelque chose. Comme je le disais, l'un de mes grands chocs culturels a été Robert Crumb, et il avait cette capacité en fait de mélanger des choses qui semblaient appartenir à l'univers de la bande dessinée pour enfants, et quand on y regardait de plus près, c'était vraiment quelque chose qui était complètement pour les adultes et plutôt horrible sur certains aspects. Donc j'adorais ce mélange et j'adorais l'effet que ce mélange créait. Moi, quand je travaille, je réfléchis pas en fait tant que ça. Hein. Mon propos, c'est vraiment de faire une belle image. Quand je feuillette mon carnet de croquis, il y a 100 dessins et que j'en trouve 5 par exemple qui ont un aspect étrange, troublant, pour moi, 100 ans, hein, je me dis que c'est à partir de ces croquis-là qu'il faut que je fasse une peinture parce qu'elle sera beaucoup plus plaisante, beaucoup plus amusante à faire. Et il y a aussi autre chose en fait qui m'a influencée, c'est les couvertures des livres de poche. En fait, quand j'étais enfant et adolescent, les couvertures de livres de poche ont en fait succédé à ces magazines pulp qui existaient avant-guerre aux États-Unis. Hein, et les gens qui dessinaient là se sont retrouvés à faire les couvertures des livres de poche après-guerre. Et donc, quand j'étais gamin, j'adorais aller soit dans les librairies, soit au drugstore, hein, pour regarder toutes ces couvertures absolument incroyables qui créaient chez moi une émotion très particulière. Hein. C'était quelque chose de plutôt excitant, toutes ces images-là. Et d'ailleurs, lorsque j'étais étudiant à l'école d'art, travaillé en fait sur ces artistes qui faisaient les couvertures des livres de poche. Donc je pense qu'en fait, la palette qu'ils avaient, leurs images, est quelque chose qui a résonné très fort en moi et qui est encore là aujourd'hui dans mon travail.
Christophe Beer.
Le tout premier livre, un des tout premiers après les fanzines, a été publié en France. Le titre peut peut-être donner une indication sur ce qui sous-tend tout votre travail, l'innocence insatiable. Ces jeunes filles qu'on voit dans la plupart de vos tableaux, je ne suis pas sûr qu'elles soient si dominantes que ça. Elles sont certainement, elles sont, disons, bien dans leur peau. Elles sont là pour ravir le regardeur, l'ensorceler. Et il y a quelque chose en elles d'insatiable, de vital. C'est une énergie, en fait, à laquelle vous semblez être sensible et vous invitez les spectateurs à se laisser ensorceler. Je suis pas sûr que les spectateurs soient, ou les personnages représentés, les hommes représentés dans les tableaux soient forcément des personnes dominées. Elles sont plutôt en attente d'être ensorcelées, de plonger dans l'eau, puisqu'il y a souvent aussi beaucoup de bassins. Ce sont presque des nymphes dans le sens antique du terme, qui sont là pour nous capter, nous ravir et peut-être nous réveiller. Dans la même mesure où ces paperbacks aux couleurs chatoyantes excitaient votre imagination, vous faites un travail qui est peut-être là pour nous réveiller, nous empêcher de nous endormir.
That's good. I mean, I don't know whether I agree with that or not, but I mean, I really don't think a whole lot about what I want the work to do for others, except I like to get a reaction.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis. si je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites ou pas, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, je ne réfléchis pas tant que ça lorsque je fais un travail à l'effet qu'il peut produire sur les gens qui vont le voir. En revanche, j'aime quand les gens réagissent. J'aime pas du tout si, quand je fais une exposition, les gens regardent et sortent. Hein. J'aime bien qu'il y ait des gens qui soient en colère ou qu'il y ait des gens qui rient, en fait. Hein. Je me souviens pas spécifiquement du livre auquel vous venez de faire référence. C'était un petit livre. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'images. Elles avaient été faites avant que j'arrive en Europe. Alors peut-être qu'elles étaient plus sombres et plus cynique en fait. C'est vrai que voilà, je suis née handicapée. Évidemment, ma force physique, mes capacités physiques sont assez limitées. Et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu séparée des autres d'une certaine manière ou sur certains aspects. Et quand on parle de la sexualité, hein, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement basé sur le visuel, et je crois que, et c'est le cas pour beaucoup d'artistes, l'art est une espèce d'extension de leur sexualité. Seulement, en ce qui me concerne, moi, ce domaine, ce champ visuel, n'était pas tellement basé sur une expérience qui est un peu celle qu'on peut avoir au moment de la puberté et sur laquelle on échange beaucoup. Hein. Dans mon cas, il s'agissait d'une expérience plus limitée, donc ce qui était dans les peintures était plus du domaine de l'imaginaire, en fait.
Vous nous dites peindre sans stratégie, presque innocemment. Est-ce que vous êtes toujours l'adolescent au regard lubrique qui dessine dans ses carnets sans sortir de son atelier? Ou est-ce que vous avez franchi l'autre côté de la muraille? Vous êtes maintenant l'artiste puissant quand il peint, sans handicap physique, en pleine maîtrise de ses sujets et des scènes qu'il dépeint.
Well, yes, I feel like a powerful man when I have my brush in my hand, you know, and I think when you are in a creative mode, when you're really in the thing, it's something very liberating, you know, it liberates you from, from whatever physical limitations I have, and,
oui, je crois qu'effectivement, je me sens très très puissant hein, quand j'ai mes pinceaux. Et quand on est en train de créer, il y a bien sûr quelque chose qui est extrêmement libérateur et qui va bien sûr au-delà des limites physiques qui peuvent être les miennes. Évidemment, quand mon travail est apprécié, c'est une joie absolument incroyable. Mais je crois que le moment en fait où mon atelier est le plus vivant, c'est vraiment lorsque j'ai des dates butoirs hein, et que là, il y a une incroyable énergie.
Merci infiniment à Stumid de nous avoir accordé cet entretien depuis Berlin. Dernière question, quels sont vos projets actuels et les événements futurs qui nous permettront de découvrir l'actualité de votre œuvre et de vos travaux?
Not at this moment. I'm working on some small paintings which I have been slowly working on since the COVID.
Non, j'ai pas de projet particulier. Je suis en train de réaliser une série de petites peintures que j'ai démarrées au moment du Covid. Et si cette série devient suffisamment importante, j'aimerais bien en faire une exposition, une publication, peut-être même un fanzine en fait. Mais je n'ai pas de projet daté comme tel.
Merci beaucoup Stumid pour votre participation et on est très ravis de vous avoir reçu. Merci.
Thank you very much Stumid. We're very pleased to have you in the program.
Thank you for asking me. It was a pleasure. Thank you.
Voilà, c'était Stumid au micro de Mauvais Genre, Esther Teilhard, qui nous a obtenu cet entretien. Merci. Et Christophe Beer et moi-même. Alors, Stumid, pour ceux de nos auditeurs, auditrices, qui seraient intéressés, captivés, magnétisés par ce personnage et son œuvre, où est-ce qu'on peut en trouver, en acheter?
On peut le retrouver sur son site internet, qui, il faut le dire, est assez fameux. Un site entièrement rose et réservé aux adultes.
Trouvable, bien sûr, sur le site de Mauvais Genre.
Et également dans la galerie Art Factory, où il y a des gravures de lui, des zines de lui, et puis dans les éditions du Dernier Cri de Paquito Bolino.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par Stumid, Art Factory sur Paris.
Art Factory, site de Stumid.
Et le Dernier Cri. Donc,
et Mauvais Genre.
Et puis Mauvais Genre, bien sûr. Bien sûr. Puis, le Dernier Cri qui est à Marseille. Chronique dans Mauvais Genre. Donc, Esther Teilhard, vous avez choisi le personnage de Rachilde. Alors, Rachilde est de plus en plus lu, édité, et on va savoir pourquoi, notamment en Folio Classique et dans la collection L'Imaginaire. Alors, l'ouvrage choisi aujourd'hui, Monsieur Vénus.
Oui, François, aujourd'hui, un roman dangereux. Monsieur Vénus de Rachilde, de son vrai nom, Marguerite Emery. Rachilde est née en 1860 au milieu des sorcières et sabbats du Périgord. Elle se qualifiait comme homme de lettres, disait se prendre pour un loup-garou, avouait détester les femmes et tenait un salon littéraire dans les bureaux des éditions du Mercure de France de son mari Alfred Valette. Huysmans, Pierre Louys, Paul Léoto et autres terribles talents étaient de la partie. Rachilde, c'est la fin de siècle, la folie, le diable, le haschich. Elle a 20 ans quand elle écrit Monsieur Vénus. Procès pour outrage aux mœurs, elle est condamnée. Plus terrifiant que le contenu du roman même, celle qui l'a écrit. Une toute jeune femme aux traits doux. Plutôt une grande perverse. Un poison vipérin semble grignoter Rachilde. Certains diront la maladie de son temps, le 20e en approche. Elle nous donne une réponse bien plus inquiétante. Elle se considère comme un individu au mauvais instinct n'ayant de féminin que le sexe. Monsieur Vénus est un roman où Raoul de Vénérande, une belle aristocrate, s'accapare un Tadzio de 20 ans pour en faire son esclave sexuel. Il s'appelle Jacques, il est roux, il est très beau. La première scène est magistrale, elle rentre chez un fleuriste et découvre, au milieu des bouquets, un jeune homme gracile, délicat, en pleine composition florale. Son physique est troublant, sa beauté fantastique, et ce pour une raison précise, il a des traits de femme, un corps de femme, des gestes de femme. Et tout est dit au deuxième chapitre. Elle n'a encore fait que le regarder, et pourtant, déjà elle jouissait de cet homme, déjà elle en faisait une proie. Lui est pauvre, cristallin, féminin, elle est riche, dépravée, masculine. Sa première envie est de l'étrangler. Jacques devient sa petite maîtresse, c'est ainsi qu'elle le qualifie, elle le paye. L'aristocratie de Rachilde est sale, dégueulasse, c'est écrit. Les femmes du vrai monde sont gênantes dans l'intimité. Monsieur Vénus, c'est une histoire d'amour où l'argent et les cochonneries ont toute leur place. Rachilde ne croit pas au milieu, ou nonne, ou monstre, ou le sein de Dieu, ou la volupté. Raoul de Vénérande est le prédateur qui façonne la victime, en fait sa chose, son chien. Elle jouit de son avilissement, de sa dignité laissée pour les autres hommes. Avec elle, Jacques n'est plus un homme, plus un être humain. Il est destiné à être violenté, puis abattu. Les scènes de sexe sont presque pudiques, les soupirs forts, puis le silence. Contre des scènes de torture explicites. Les coups que Raoul donne au jeune homme sont décrits, l'endroit des marques sur le corps est précisé. Et puis comme toujours avec Rachilde, quelques personnages truculents en arrière-plan, comme un cauchemar de Fuseli. Une religieuse qui se prostitue, un ex-officier des hussards habillé tout en noir. Raoul de Vénérande est la mante religieuse qui dévore son partenaire pendant l'accouplement. Leur liaison vise à la destruction de leur sexe respectif. Elle le drogue à la Rosemary's Baby. Elle le viole, elle le bat. Elle lui fait croire qu'il a rêvé. Tout cela dans un décor sublime, le grand goût de la haute en fond. La saleté émerge d'autant plus. Rachilde, pour l'amour de la grande beauté et du vice. Elle est un génie et j'insiste sur le 1. Son talent est immense, ses écrits terrifiants. Je finirai sur cette phrase que Jacques donne à Raoul. « Je ne suis pas un homme, je suis l'animal battu qui revient lécher tes mains. »
Rachilde, donc, aux éditions Folio, dans la collection Folio Classique. Alors, à signaler, justement, le volume dont vous parliez, Monsieur Vénus, d'une part, on vient d'en parler, et puis la suite, Madame Adonis, qui est un autre roman tout aussi pervers et tout aussi redoutable de Rachilde, dans une édition savante de Martine Reed, qui est la grande spécialiste de la question. Alors, Rachilde, c'est une personnalité qui est morte tard, en 1953, on peut la découvrir et la voir vivre en permanence dans journal de Paul Léoto. Elle a énormément publié, et notamment un roman qui l'a rendu célèbre qui s'appelle La Tour d'amour. Alors, de quelle tour s'agit-il? Bien, c'est un phare. C'est un roman paru au Mercure de France en 1901. Le phare en question existe bien. C'est le phare Armen qui a été bâti sur la chaussée de Saint entre 1868 et 1881 et qui est vraiment le phare Finistère, c'est-à-dire le phare du bout du monde, le phare exposé le plus directement à la violence des flots et à la puissance de l'océan. Et construire ce phare a été une épreuve, et y vivre est encore plus redoutable, puisqu'effectivement on y est condamné à la réclusion, voire à une solitude totale, à la fois une solitude psychologique et une solitude sexuelle, affective. Et Rachilde met en scène cette extraordinaire solitude du phare dans La Tour d'amour, qu'elle incarne dans deux personnages. Alors le premier, c'est Jean Malleux. Jean Malleux, bon, c'est un ancien militaire qui a connu la Méditerranée, l'Orient, des amours sans fin, et puis qui ont fini par accepter d'être mutés dans ce phare du bout du monde. Et l'autre, c'est le curieux Mathurin Barnabas, qui est un personnage, une sorte d'ermite, qui est un homme qui fait corps avec le roc, qui fait corps avec les algues, et véritablement qui semble de la même matière, du même matériau que les rochers, que les récifs ou que le phare, mais qui a cette particularité, nous sommes chez Rachilde, d'avoir une voix légère, une voix flottante, une voix de femme, une voix féminine. Et donc ces deux personnages sont confrontés à Rachilde, insiste beaucoup, évidemment, sur, je dirais, la lutte au quotidien contre l'océan, sur la résistance du phare face à la puissance des eaux, mais en même temps sur cette solitude sexuelle et psychologique des personnages, et donc la manière de la résoudre. Et chacun à sa façon. Malleux, c'est la façon traditionnelle, il va à terre, il cherche parmi la population de Saint-Malo eh bien une épouse, il tente de se marier. Quant au Barnabas, beaucoup plus mauvais genre, lui, on comprendra, mais je ne vais pas trop vous en dire, qu'il réussit, grâce au fétichisme et un certain goût pour la nécrophilie, à résoudre le problème de la compagne, ce que découvre d'ailleurs Jean Malleux, un peu effrayé à un moment du roman. C'est un des très grands romans de Rachilde, tout autant que Monsieur Vénus, dont on vient de parler. Rachilde qui a cette particularité d'avoir capté et d'avoir incarné toutes les grandes thématiques de la Belle Époque, du symbolisme, c'est-à-dire la morbidité érotique, la puissance, la violence, la question du sexe et des genres, mais de ne pas avoir, d'une certaine façon, subi tous les maniérismes d'écriture pénibles. Ça se lit aujourd'hui très très bien, et c'est un auteur parfaitement contemporain. Autre livre dont j'ai souhaité vous parler, Cyril Anton, Le Nain de Whitechapel, aux éditions du Sonneur, qui met en scène le nain Oscar Swinburne de Sheerfield, qui est un nain qui naît dans une grande famille de la bourgeoisie provinciale, mais qui est désavoué, qui est renié et qui est même vendu suite à un scandale public, qui est vendu un chenil de Whitechapel, qui est le bas-fond absolu de Londres, que Gustave Doré a incarné dans des gravures extraordinaires et que Dickens a arpenté, comme on le sait. Et donc là, il est acheté, Oscar Swinburne, il est acheté par un pianiste noir qui s'occupe de lui et qui lui donne, parce qu'il est lui-même pianiste, qui lui donne une sorte de vie à peu près décente. Brusquement survient les méfaits d'un gang, qu'on appelle le gang des Taboula Rasa, tout à fait pré-nazis. en cuir noir, qui s'attaque à tous les inférieurs ou pressentis comme tels, à la fois physiquement et racialement. Et donc, Oscar organise la résistance contre ces personnages, et notamment en créant une boule à neige gigantesque dans laquelle il recrée une petite cité où tous les persécutés peuvent évidemment se trouver refuge et protection. C'est un très beau roman de Cyril Anton aux éditions du Sonneur. Ainsi s'achève Mauvais Genre, consacré ce soir grâce à Esther Taillard. On la remercie à Stu Mead, que nous avons interviewé depuis Berlin. Je rappelle également donc Monsieur Vénus de Rachilde et Madame Adonis, c'est en folio. La Tour d'amour, c'est dans l'imaginaire. Et Le Nain de Whitechapel de Cyril Anton, c'est aux éditions du Sonneur. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Élise Le, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Esther Taillard, Christophe Biré, François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons en compagnie de François Rivière et nous parlerons de l'immense du grand auteur de romans d'espionnage, Eric Ambler. Et d'ici là, bonne semaine. Thank you.